Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ces jours-là parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Toute la terre. Il s'agit bien sûr de l'Empire romain qu'avait fondé César Auguste et qui, à l'époque de la venue du Sauveur, jouissait d'une paix générale et prospère. Les prophètes avaient annoncé le Messie comme un roi pacifique, Rex Pacificus. C'est le premier mot d'ailleurs que la liturgie chante pour cette fête de Noël au commencement des premières vêpres. Jésus venait sur la terre pour y rétablir la paix, la vraie paix, celle qui ne peut venir que de la soumission des hommes à Dieu, et que notre Seigneur venait conquérir en allant vaincre le démon et le péché sur la croix. Voilà pourquoi, dans la nuit du premier Noël, les anges chantèrent « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et pour que les hommes soient plus réceptifs à ce message, Jésus a voulu s'incarner à un moment où le monde connu d'alors était entièrement pacifié, et où, pour maintenir et fortifier cette paix, Auguste organisait l'Empire en commençant par recenser ses habitants. Ce fut le premier recensement, nous dit saint Luc. Tous allaient donc se faire inscrire, chacun dans sa ville natale, pour payer l'impôt à César. Dans le plan providentiel, Dieu allait se servir de ce recensement pour permettre à Joseph et Marie de faire le voyage de Nazareth à Bethléem, à l'approche de la naissance de Jésus. Sinon, Jésus serait né à Nazareth. Mais le prophète Michée avait annoncé qu'il naîtrait à Bethléem. Et toi, Bethléem, Éphrata, quoique trop petite pour compter entre les milliers de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit être le dominateur d'Israël. Il y a 165 kilomètres de mauvaise piste entre Nazareth et Bethléem. Imaginez ce que put être ce voyage pour une jeune vierge d'à peine 15 ans environ, proche de l'accouchement. Et c'était en plein hiver. La tradition nous a rapporté que pour ménager Notre-Dame, Saint Joseph avait emmené un âne sur lequel put s'asseoir la Sainte Vierge, mais ce n'était quand même pas le grand confort. Les voyageurs nombreux qu'ils croisaient sur la route et qui maugréaient peut-être contre l'édit impérial qui les obligeait à voyager en une telle saison, ces voyageurs ne se doutaient pas que le monde entier avait été mis en mouvement uniquement pour ce pauvre couple qu'ils croisaient. Et ils ne savaient pas quel trésor Marie portait en son sein. Tandis que Marie et Joseph cheminent péniblement, tournons nos regards vers Bethléem pour voir comment la cité de David se prépare à la naissance de son Sauveur. Elle devrait être au courant. Le prophète Michée l'a annoncé il y a déjà 8 siècles, et la prophétie de Daniel indique que le jour est proche. Les Juifs connaissaient très bien les Écritures. Allons voir à l'hôtellerie, qui est le centre de l'activité du village. Oh, il ne faut pas se l'imaginer comme un de nos hôtels actuels. À Bethléem, il y avait une unique hôtellerie qu'on appelait caravansérail, une sorte de grande cour carrée avec des auvents sur les 4 côtés, où hommes et bêtes s'entassaient. Au milieu, on faisait un grand feu pour donner un peu de chaleur et pour faire la cuisine. L'installation, vous le voyez, était très sommaire et on dormait enroulé dans une couverture. En tout cas, pour les hôteliers, ce recensement qui amenait tant de monde, c'était vraiment une bonne affaire cette année-là. Ce premier Noël sera pour eux une bonne affaire commerciale, comme les Noëls aujourd'hui dans notre monde apostat. La venue du Sauveur, on ne s'en préoccupe guère. On connaît la suite. Joseph et Marie, se présentant à l'hôtellerie de Bethléem, y trouvèrent une fin de non-recevoir. Il n'y a plus de place, allez ailleurs. Si les uns sont indifférents, il en est d'autres qui seront ouvertement hostiles. Ainsi, lorsque les mages arriveront à Jérusalem plus tard, toute la ville sera en émoi. Quel est donc ce roi? Pourquoi ce roi? Nolumus eum regnare super nos. Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et Hérode enverra ses soldats pour tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans, en espérant que parmi ses enfants se trouvera ce futur roi. Le Sauveur du monde est à peine arrivé et aussitôt il est signe de contradiction. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et le monde le crucifiera et il continuera à le rejeter tout au cours des siècles à travers son Église. N'ayant pas été reçus à Bethléem, Saint Joseph et la Vierge Marie se dirigèrent alors vers le sud du village, où des grottes, taillées dans le grès, servaient de refuge pour abriter les troupeaux avec leurs bergers, de nuit ou par temps d'orage. Saint Joseph connaissait bien les lieux puisqu'il y avait passé toute son enfance. Ils s'installèrent alors dans l'une d'elles pour passer la nuit. Et c'est dans cet humble lieu qu'à l'heure de minuit, Jésus se montrera pour la première fois aux hommes. La Vierge Marie enveloppa l'enfant de l'ange, et comme il y avait là une mangeoire pour contenir l'orge offerte aux animaux, la Vierge Marie y déposa l'enfant. Chers fidèles, il nous faut faire ici un acte de foi dans 3 mystères. Pour ne pas nous en tenir à une vue des choses superficielles, extérieures, qui nous arrêteraient à Jésus dans son humanité, uniquement. Premier mystère, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. L'enfant qui est là dans la crèche, eh bien c'est le Fils unique de Dieu, engendré du Père de toute éternité. C'est le premier mystère de Noël. Devant la crèche, on peut ouvrir son évangile et réciter le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ce sera d'ailleurs l'évangile de la messe du jour de Noël. Engendré de toute éternité par le Père, notre Seigneur est Dieu, consubstantiel au Père, possédant la même nature divine, la même sagesse, la même puissance que son Père. Mais comme il est né dans le temps du sein de la Vierge Marie, il est en même temps vrai homme. La Vierge Marie doit l'envelopper de l'ange dans la nuit car il fait froid. Le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, continue Saint Jean. Cependant, sa personne est unique, c'est la seconde personne de la Sainte Trinité qui réunit en elle la nature divine et la nature humaine. Mais il est une autre vérité de foi très importante à rappeler en cette fête de Noël. Fils unique de Dieu, en prenant un corps humain dans le sein de la Vierge Marie, Jésus n'a pas été conçu comme les autres hommes. Il n'a donc pas été conçu de Saint Joseph, mais par une intervention surnaturelle, par une action du Saint-Esprit. C'est ce que l'ange avait annoncé à Saint Joseph lorsque, voyant Notre-Dame enceinte, il avait résolu de la renvoyer secrètement. Non qu'il ait eu quelques doutes sur la Vierge Marie, mais parce qu'il pressentait un mystère dont il ne se sentait pas digne. Ce qui est né en elle, lui dira l'ange, vient du Saint-Esprit. Mais conçu du Saint-Esprit, comment est-il né? Jésus est né d'une vierge qui l'est demeurée pendant et après l'enfantement, comme elle l'était avant. C'est le troisième mystère de foi que l'Église nous fait contempler en cette fête. Comme le rayon de soleil traverse la vitre sans la briser, le Fils de Dieu est sorti miraculeusement du sein de la Vierge Marie sans porter atteinte à sa virginité. Notre-Dame fut donc mère tout en restant vierge. C'est un dogme de foi qui a été proclamé au premier concile de Latran en 649. Et comme son Fils est Dieu, elle peut être appelée en toute vérité mère de Dieu. L'Église l'a proclamé au concile d'Éphèse en 431. Si Bethléem, endormie dans son matérialisme, est indifférente à la naissance du Sauveur du monde, il va en être autrement pour d'autres personnes. Il y avait dans la contrée des bergers qui vivaient aux champs et qui la nuit veillaient à la garde de leurs troupeaux. Tout à coup, continue saint Luc, l'ange du Seigneur leur apparut et une lumière divine les environna. L'ange du Seigneur. Les pères de l'Église pensent communément qu'il s'agit de l'archange Gabriel, l'archange de l'Annonciation, l'archange de l'Incarnation, qui a annoncé à Zacharie la naissance de saint Jean-Baptiste et à Notre-Dame qu'elle serait la mère du Sauveur. Et cette lumière divine qui enveloppa les bergers dans la nuit signifiait que celui qui vient de naître est la lumière qui vient éclairer le monde en lui apportant la doctrine de vérité pour délivrer les hommes de bonne volonté des ténèbres de l'erreur. Mais pourquoi l'ange apparaît-il de préférence aux bergers? D'abord parce qu'ils sont pauvres. Je viens à cause de la misère des indigents et des souffrances du pauvre, dit un psaume. Notre Seigneur vient bien sûr sauver les riches et les pauvres, mais il vient surtout réconforter ceux qui sont les plus malheureux. Ensuite, l'ange apparaît aux bergers parce qu'ils sont simples. Cela concerne autant ceux qui sont riches que ceux qui sont pauvres matériellement, car ce qui attire Jésus dans une âme, c'est la pauvreté d'esprit, l'humilité, qui consiste à se vider de soi-même pour se livrer totalement à Dieu. Enfin, l'ange apparaît aux bergers parce qu'ils sont en train de veiller. Être en train de veiller, cela veut dire ne pas être endormi dans la vie facile et les plaisirs de ce monde, comme si l'on devait vivre toujours sur cette terre, mais rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire être préoccupé en premier lieu de notre salut et de celui du prochain. Telles étaient les dispositions qui préparaient les bergers à recevoir le Fils de Dieu incarné venant en ce monde. Mais qu'est-ce que Jésus donne à ceux qui le reçoivent à Noël? Car il vient pour donner. À tous ceux qui l'ont reçu, continue saint Jean, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. La première étape est donc de croire. Accepter par humilité les secours surnaturels par lesquels Dieu pousse notre intelligence à croire en Jésus-Christ et à tous ses enseignements. Mais à quoi servirait-il de croire si nous ne conformons pas notre vie à ce que nous croyons? La volonté de l'homme a un pouvoir redoutable, pouvoir d'accepter ou pouvoir de refuser. Et de ce pouvoir dépend toute notre éternité. Pour lui permettre d'accepter, Dieu donne encore à l'homme un secours surnaturel que l'on appelle une grâce actuelle. Si l'homme ne se dérobe pas à ce secours, il reçoit la grâce sanctifiante qui le fait devenir enfant de Dieu, fils adoptif de la Sainte Trinité, adopté par la Trinité pour participer pour toujours au bonheur infini de Dieu dans le ciel si l'homme persévère dans la grâce jusqu'à la mort. On parle beaucoup en ce moment de transhumanisme. L'homme moderne, enflammé d'orgueil, grisé par les possibilités de sa science, veut s'élever par lui-même, au-dessus de lui-même. Ils pensent même qu'ils arriveront un jour à supprimer la mort. C'est le vieux rêve par lequel le démon a tenté nos premiers parents au paradis terrestre. Vous serez comme des dieux. Il est vrai que nous avons une destinée au-dessus de notre nature, mais différente de celle dont rêvent les ennemis de notre Seigneur, inspirés par le démon. Dieu nous appelle à participer à sa nature divine par la grâce sanctifiante qui est comme un reflet de la beauté de Dieu sur notre âme et qui nous élève au-dessus de la nature humaine pour nous permettre de participer au bonheur infini de Dieu. Mais ce n'est pas par ses propres forces que l'homme y arrivera, c'est par Jésus-Christ, en lui étant uni par la foi et par la grâce sanctifiante. La liturgie chante d'ailleurs aux vêpres du 1er janvier cet échange extraordinaire permis par l'incarnation. Ô admirable échange, le Créateur du genre humain, prenant un corps et une âme, consent à naître d'une vierge, et le voici, homme sans père ici-bas, qui nous fait part de sa divinité. Alors, comme les bergers, hâtons-nous vers Bethléem, c'est-à-dire vers l'Église, pour nous abreuver de la grâce qui vient dans notre âme par les sacrements, et qui vient dans notre âme pour détruire le péché et pour nous faire vivre dès cette terre de la vie divine. En attendant que tout cela s'épanouisse un jour dans la gloire et le bonheur sans fin du ciel. C'est cela la leçon de Noël. Alors demandons à Notre-Dame de le comprendre toujours plus et de persévérer jusqu'à notre mort dans la vraie foi et dans l'état de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.